Mathieu Pellerin, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement qui s'intéresse aux écoles coraniques, est-ce que cela veut dire que les autorités malgaches veulent envoyer un message?
Peut-être, mais en tout état de cause, c'est un message qui peut avoir des effets insoupçonnés, voire contre-productifs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un climat de tension assez latent entre les communautés chrétiennes et les communautés musulmanes depuis quelques temps à Madagascar, notamment du fait de la multiplication de rumeurs souvent fondées sur une certaine radicalisation ou une islamisation du pays. Et donc, il est évident que ce genre de mesures ne contribuent pas, disons, à l'apaisement de ces communautés. Bien au contraire, ça renforce l'idée un petit peu sous-jacente et je dirais croissante de la part de la communauté musulmane qui sont victimes d'une forme de marginalisation ou de stigmatisation de la part d'un État qu'ils considèrent comme étant chrétien. Loin de moi de dire que cette marginalisation existe, mais le fait est qu'un sentiment existe et c'est bien l'essentiel.
Et pourtant, les représentants de la communauté musulmane ont traditionnellement eu de bonnes relations avec l'État malgache.
Alors oui, c'est ça qui est tout à fait... intéressant à souligner, c'est que l'organisation, on va dire, fêtière des musulmans à Madagascar, le FSM, a depuis les premières années post-indépendance de très bonnes relations avec l'État, et même ce FSM a condamné cette décision. Donc ça montre bien qu'il y a quand même un véritable problème qu'il faut traiter au-delà de cette mesure d'interdiction. Il faut, je pense, éclairer cette mesure, ouvrir la voie à un dialogue pour trouver des solutions consensuelles, parce que si même le FSM, qui a toujours été l'organisation la plus ouverte et tournée vers l'État, s'y oppose, c'est clairement qu'il y a un problème à régler.
Vous parliez de rumeurs d'islamisation, de rumeurs de radicalisation. Comment on pourrait décrire aujourd'hui la communauté musulmane de Madagascar?
Déjà, la communauté musulmane est très discernable entre les communautés chiites et sunnites. La communauté chiite est plus importante dans le pays, numériquement, et sans doute en termes d'influence également, mais vous avez un développement de ces deux communautés. Et au sein même de ces deux communautés, vous avez différentes écoles.
Et est-ce que l'on dispose de chiffres, de données statistiques fiables sur le sujet ?
Non, aucune. C'est bien le problème, un petit peu. Ça ouvre la porte à toutes les interprétations, voire même parfois tous les fantasmes. Les estimations aussi entre 5 et 10, voire parfois 15%, mais il n'y a aucune statistique précise, ni même entre sunnites et chiites. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent quand on parle d'islamisation. Ce qui, en revanche, est sans doute vrai, c'est que visiblement, dans les rues, au milieu de la population, vous voyez beaucoup plus de signes extérieurs de cet islam. Vous avez quelques nouvelles mosquées, vous avez effectivement de nouvelles écoles coraniques, et vous avez le développement d'un mouvement qu'on appelle la Jamaat Tablir, qui est un mouvement prédicateur musulman qu'on retrouve dans absolument tous les pays du monde sans exception, et qui, à Madagascar comme ailleurs, trouve effectivement à assouvir leurs besoins de prédication sous forme de retraite. Donc ils parcourent le pays à pied, ils sillonnent différentes mosquées et assouvissent comme ça leur quête spirituelle religieuse. Et ça donne à voir effectivement beaucoup plus de musulmans, et si vous me permettez l'expression, parce que localement c'est comme ça que c'est retranscrit, de barbus. Donc ça prête un petit peu le flanc à cette radicalisation, cette islamisation, sans qu'il y ait de critères objectifs qui permettent de l'établir.
Voilà, on est plus dans le domaine du ressenti alors.
Pour l'instant, c'est complètement ça. Toutes les rumeurs, si vous voulez, qui ont circulé, y compris sur des ondes internationales ou des médias internationaux faisant état de cellules de radicalisation, de camps d'entraînement de djihadistes, parce que ça a circulé dans la presse, etc., tout ceci relève beaucoup plus du fantasme, si ce n'est exclusivement du fantasme, que de la réalité, en tout cas à ce stade.
Est-ce qu'il y a justement une menace djihadiste sur Madagascar aujourd'hui ?
Écoutez, il est très difficile d'être formel sur la question, étant entendu qu'il n'y a aucun État aujourd'hui dans le monde qui peut se dire complètement épargné par cette menace-là. Toujours est-il qu'à l'heure où on parle, il n'y a jamais eu de menace ouvertement portée sur Madagascar. Le groupe qui est le plus proche de Madagascar, c'est le groupe des Al-Shabaab,
qui est basé en
Somalie. Géographiquement, tout à fait, qui est basé en Somalie et qui s'étend jusqu'à la Tanzanie. Mais Madagascar n'a jamais, absolument jamais, été dans l'œil du cyclone des Shabab. Ceci étant dit, vous avez ponctuellement quelques individus sur lesquels des doutes planent. Il y a un individu qui a été arrêté il y a à peu près 2 ans parce que sur Internet, Il vantait l'État islamique, un individu malgache. Mais si vous voulez, vous n'avez absolument rien, ni d'organisé, ni de systématique, ni d'ancré. Donc la menace djihadiste à Madagascar, ce serait beaucoup plus, à la limite, je dirais, une menace d'opportunité, parce que vous avez un État qui ne contrôle pas entièrement son territoire, avec des frontières qui sont assez perméables, beaucoup de corruption qui prête effectivement à ce que des individus puissent rentrer clandestinement à Madagascar, et à ce moment-là, pouvoir effectivement cibler des intérêts occidentaux. Mais ce serait beaucoup moins pour Madagascar en tant qu'île et en tant que pays, beaucoup plus pour le nombre d'Occidentaux qui seraient présents à Madagascar. Donc ce serait une menace venue de l'extérieur et non pas, si vous voulez, qui se développerait de manière endogène dans le pays.
Mathieu Pellerin, merci.